Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous et merci. Bravo et surtout merci aux infirmières, médecins, aides-soignantes. Merci au personnel éducatif, des commerces, des entreprises, de transport, des sociétés de nettoyage. Toujours là pour nous accompagner en cette période de crise sanitaire. Une crise qui est loin d'être derrière nous. Plus du quart du territoire français, comme de nombreuses régions de la planète, continue de connaître une importante circulation du coronavirus, mobilisant comme jamais auparavant les personnels hospitaliers. Ces mêmes personnels qui, en France, dans leur diversité de métiers et de niveaux hiérarchiques, avaient depuis des mois sonné l'alerte en manifestant, en faisant grève, en démissionnant collectivement. Un hôpital public étranglé, mais jamais vraiment écouté. Certains personnels épuisés, mal payés, son fonctionnement confié à des gestionnaires, parfois souvent éloignés des besoins des patients et du sens même donné au mot « soins ». Des années où une logique commerciale s'est imposée jusqu'à ce que le choc se produise, onde de choc nommée coronavirus, réorganisant du jour au lendemain les équipes et les services. Un hôpital en extrême tension, mais qui, à force de compétences et de capacités d'adaptation, a réussi à ne pas sombrer dans le chaos. Et après des années de restrictions, les soignants ont constaté que l'on pouvait ouvrir les vannes pour sauver des vies, débloquer des crédits à la hauteur de ce qu'ils et elles réclamaient depuis des années, confier finalement l'hôpital aux soignants, redonner un sens au mot santé publique. Mais pour combien de temps? Que restera-t-il de ce sursaut une fois l'épidémie dépassée? C'est à cette question que vont répondre aujourd'hui les invités de Priorité Santé. Et l'équipe de Priorité Santé, toujours partagée entre confinement et les locaux de RFI. Aujourd'hui, nous donnons la parole à quatre voix, quatre invités. À vous, professeur André Grimaldi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de diabétologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Également en ligne, professeur Frédéric Adnet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chef de service des urgences de l'hôpital Avicenne de Bobigny, directeur médical du SAMU de la Seine-Saint-Denis. On retrouvera tout à l'heure en direct le docteur Gérard Bapp, cardiologue, député honoraire et ancien président de la mission d'information sur le Mediator. Et nous donnerons également la parole à Delphine Soubest. Elle est infirmière en endoscopie à l'hôpital européen Georges Pompidou. Une émission dans le cadre de notre journée spéciale sur le monde d'après sur RFI. Quel monde, hein, après cette pandémie. Mais avant de nous interroger sur demain, un petit retour sonore en arrière, 27 février 2020, dans ce plus grand hôpital de Paris que vous connaissez bien, professeur Grimaldi. C'est chez vous, un échange à la Pitié-Salpêtrière. Emmanuel Macron rencontre alors des soignants.
Priorité santé sur RFI.
Le système, en tout cas des hôpitaux publics, est actuellement, je dirais, sinistré. Les moyens qu'il faut injecter, c'est des moyens qui sont urgentissimes. Et je pense qu'il est de la responsabilité des tutelles en général et du président de la République, qui est le protecteur de l'ensemble de la nation, d'assumer ce rôle.
J'ai parfois le sentiment de payer l'addition de beaucoup de comptes qui sont restés non soldés. Je veux bien les prendre, mais je veux au moins avoir un tout petit peu de reconnaissance pour ça.
Vous savez, quand il a fallu sauver Notre-Dame, il y avait beaucoup de monde pour être ému. Là, il faut sauver l'hôpital public qui est en train de flamber à la même vitesse. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire pour l'instant.
Je compte sur vous.
Ah oui, vous pouvez compter sur moi. L'inverse reste à prouver.
Non.
L'inverse reste à prouver. Cette phrase, on l'a entendue, elle a fait mouche. Le président de la République, interpellé par l'un de vos confrères neurologues, le docteur François Salacas du collectif Interhôpitaux, c'était le 27 février. Le premier patient français venait alors tout juste de décéder du Covid-19. 10 semaines plus tard, nous y sommes. Les soignants sont épuisés, mais ils ont réussi à repousser la vague. Lourd, très lourd bilan humain. 25 987 morts des comptes d'hier en France. Terrible bilan au sein de la société civile comme de la communauté médicale. On aura l'occasion d'en parler. Encore plus de 23 000 hospitalisations. 2 961 personnes en réanimation. Mais professeur Grimaldi, incroyable réactivité de cet hôpital public que certains décrivaient au moins comme fatigué, voire même moribond.
Oui, cette pandémie montre les faiblesses et aussi les forces de l'hôpital public. Les faiblesses, mon collègue François Sadekas les a décrites, hein, c'est-à-dire qu'on a mis à mal l'hôpital public et dans le budget qui était voté là, à l'automne pour l'hôpital public, on demandait encore 800 millions d'économies à l'hôpital public. Mais les forces, ça a été la mobilisation des soignants qui reste le personnel qui s'est regroupé autour des équipes de soins. Alors, il faut dire qu'il y a eu deux facteurs. C'est-à-dire que, un, il n'y avait plus qu'une seule maladie à l'hôpital. Mmh. Les patients Covid, les autres sont partis. Hein. On a reporté des opérations, des consultations ont été transformées en télémédecine. Enfin, donc, tout le monde a collaboré et les gestionnaires ont arrêté de chercher à faire des économies. Tous les moyens se sont mis au service du soin. Ce qui paraît évident, ce qui est normal, mais là, ça a été imposé par les faits. Donc, cette force, elle est considérable. Mais elle ne durera pas indéfiniment. C'est-à-dire que dans l'urgence, tout le monde se mobilise, tout le monde monte au front, il faut défendre le pays. Mais si ça dure, les autres malades vont revenir, les soignants sont épuisés. Avant l'épidémie, il manquait 800 infirmières à l'assistance publique. Donc là, des gens sont revenus, mais ils vont repartir. Et si on ne se donne pas les moyens de garder le personnel, de donner le pouvoir aux équipes de soins et de mettre la gestion au service du soin, je pense qu'on aura des difficultés à l'avenir. Et il ne faut surtout pas revenir à la situation d'avant et comprendre que si on veut garder les personnels soignants, les aides-soignantes, les infirmières, il faut aussi qu'il y ait une revalorisation de leur carrière, de leur métier. Pas seulement une prime, mais une revalorisation du métier. Une infirmière en France débute à 1600 euros brut. Nous sommes en 28e position sur 32 pays de l'OCDE. Donc c'est pas possible de croire que les personnels reviendront prendre des risques dans la durée. Ce seront plus des héros. Hein. La position aux fenêtres, ça ne durera pas des années.
Les classements, on les sort un petit peu quand ça nous arrange, hein, et ces fameux classements sur le salaire des personnels, des aides-soignants, des infirmières, qui sont vraiment, on peut le dire, sous-payés. Ça fait des années qu'on les voit dans les rues. Depuis que je suis enfant, je les vois dans les rues manifester et rien ne change. Professeur Frédéric Adnet, aujourd'hui à l'hôpital Avicenne de Bobigny, dans ce département de Seine-Saint-Denis, hein, qui a payé un si lourd tribut à cette maladie, au Covid-19, deuxième rang en termes de mortalité derrière le Haut-Rhin. Est-ce que vous avez l'impression, professeur Adnet, que le pire est maintenant derrière vous ?
Alors, oui. Enfin, si on parle en termes d'épidémie, oui, le pire est derrière nous. On est clairement en queue d'épidémie. C'est-à-dire qu'actuellement, on reçoit de très peu de patients qui ont cette maladie. Le service des urgences tourne à la moitié de son activité normale. Le SAMU à son activité normale. Et les réanimations retrouve une activité normale progressivement, puisque on était passé, en faisant des réanimations de briques et de broc, de 16 lits à 48 lits, et à partir de lundi, on retrouve nos 7 lits.
Alors, on va parler de l'après, mais on va déjà essayer de comprendre un petit peu comment ça s'est passé pendant la vague, ce contexte hors norme, professeur Adnet. Est-ce que vous avez vraiment redécouvert des ressources, des compétences, et puis aussi un mode de contact et d'organisation, de communication, on va dire, que vous ne pouviez plus utiliser avant le séisme Covid-19?
Alors, j'ai découvert, vous savez, je suis directeur d'un département médico-universitaire, c'est des espèces de super pôles qui ont été inventés très peu de temps, d'ailleurs avant l'épidémie, hein, parce que ça faisait à peine 2 ans qu'on avait cette super structure qui était le si vous voulez, le nouveau super service qui devait transmettre, si vous voulez, les directives de la direction sur un management qui est, comme le disait le professeur Grimaldi, complètement dédié à une balance recettes-dépenses, donc un management par l'économie, par les économies de soins. Est arrivée cette crise, et je dois dire que cette crise, moi, m'apporte beaucoup de leçons en termes de management. Les superstructures qu'on avait inventées se sont complètement diluées, effondrées à la lumière de cette crise pour retrouver un fonctionnement centré sur le patient, centré sur le soin, en redécouvrant que finalement c'était le service qui était la véritable unité structurelle, opérationnelle, qui pouvait fonctionner et donner des résultats quasi immédiats. J'ai retrouvé des réunions, vous savez, les réunions de management qu'on a, on a en gros 20 administratifs et 3 médecins. Mmh. Là, on avait des réunions de crise avec 20 médecins et 3 administratifs. Ben, je peux vous garantir que c'est complètement différent. On a retrouvé un espèce de sens à notre mission de manager, puisqu'on parlait effectivement dans cette crise de sauver des patients. On centrait tout sur le soin, sur juste le soin. On redistribuait des ressources avec un espèce de consensus médical. Et j'ai retrouvé un management qui, pour moi, était vraiment le management extrêmement efficace en remédicalisant les décisions administratives. Et je crois que si j'ai en termes de management, on a beaucoup de leçons à tirer de cette crise, mais en termes de management, je crois qu'il ne faut surtout pas retourner à l'hôpital d'avant. J'ai trouvé enfin un sens à ce mot qui est le management médical, et j'ai retrouvé, si vous voulez, des médecins dans tout. Alors, je ne dis pas que les médecins doivent être partout et doivent gouverner l'hôpital, mais qui doivent avoir au moins le partage des décisions et des décisions qui sont tout de suite opérationnelles. Alors, c'est vrai qu'on n'avait pas de limitation en termes de budget. C'était une espèce d'open bar au niveau des rentrées d'argent, puisqu'il fallait absolument arrêter cette épidémie. Mais on a été absolument raisonnable et on a rapidement, même s'il était un peu de brick et ball, puisque vous savez que la capacité de l'hôpital public a été drastiquement diminuée à cause de ces économies en dépenses de santé, on a dû redéployer l'hôpital pour faire un hôpital Covid, en redistribuant les interventions chirurgicales, par exemple, qui n'étaient pas urgentes, en enlevant, par exemple, le service de cardiologie, qui s'est transformé en service de réanimation. Mais si vous voulez, toutes ces décisions qui étaient des décisions lourdes, compliquées, c'est extrêmement simplifié parce qu'on a retrouvé un dimensionnement qui était le service et des décisions où tous les médecins étaient partie prenante.
Alors on va vous retrouver, messieurs, dans quelques instants. D'abord, une autre voix pour illustrer ces premiers échanges, réflexion sur ces lendemains pour l'hôpital public qui était bien sûr au centre de cette conférence de presse du collectif Interhôpitaux. La parole à votre consoeur, professeur Agnès Hartmann, diabétologue à la Pitié-Salpêtrière. Eh bien, elle refuse, elle aussi, un retour en arrière.
On a eu l'impression d'être libérés et qu'on soit retrouvés enfin libres de nous organiser, de soigner les patients comme on voulait. Et puis, on avait cette espèce de mission exaltante, quelque part, imposée par la situation. À partir du moment où on nous donne les moyens de travailler, le sens revient. Ce qui est très intéressant, c'est que ça s'est passé presque d'un jour à l'autre. On a compris qu'il y a un ordre qui était venu sûrement de très haut pour qu'on nous donne ces moyens-là. Mais presque choquant, par moment, il y a des personnels qui disaient « mais c'est même étonnant d'avoir autant de moyens ». Il y a une aide-soignante qu'on envoyait chercher en taxi parce qu'elle habitait loin, qui repartait en taxi. Et elle a dit avec beaucoup d'humour, le chauffeur de taxi, je crois qu'il va gagner 2 fois plus que moi ce mois-ci. Et elle n'avait pas tort, parce qu'on vit d'un seul coup une espèce de douche froide. Les patients atteints du Covid sont partis de mon bâtiment et on voit réapparaître des vieux réflexes de la direction gestionnaire. On commence à compter les lits vides, devient à nouveau obsessionnel des paniques. Donc, on est en effet très préoccupé. Pour les patients atteints de Covid, on nous a fait évaluer la charge en soins. Tout le monde a dit il faut une infirmière, une aide-soignante pour 5 lits, etc. Si quand les patients non-Covid reviennent avec des maladies chroniques, des maladies aiguës, on ne nous demande pas ça, je trouve que ça pose une vraie question éthique. Ce qu'on attend maintenant de nos dirigeants, c'est qu'on puisse soigner dans les bonnes conditions de travail et les patients non-Covid qui vont revenir de la même manière qu'on a pu soigner les patients atteints du Covid.
Professeur Agnès Hartmann au micro de Marie Cassa-Debé. Professeur André Grimaldi, on a bien compris, pas question de retourner à la case avant Covid. Et ce qu'on a entendu aussi avec tout à l'heure votre confrère, le professeur Annette, c'est qu'il n'est pas question d'un rapport de force, d'une prise de pouvoir, mais bien d'un rapport de compétence.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux choses importantes. Il faut revenir à une gestion autour des services, là où il y a les équipes de soins, et pas autour des structures de gestion. Ce qu'a dit mon collègue, sur les pôles, les départements médico-universitaires, les grosses machines qui font plein de réunions peu utiles, qui sont là comme des courroies de transmission d'une gestion de type à la fois commercial et contrainte sur le plan budgétaire. Et puis l'autre chose, c'est que si on dit que c'est le soin, alors il faut déterminer pour chaque unité de soin le nombre de personnel nécessaire pour assurer la qualité et la sécurité. On le fait en réanimation, on l'a fait pour les patients Covid, mais habituellement c'est une norme gestionnaire, administrative, bureaucratique qui dit il faut une infirmière pour 13 lits ou 14 lits, voire un an pour 15 lits, quelle que soit l'activité. Vous avez des plaies des pieds chroniques de patients qui risquent d'être amputés pour le diabète, c'est une infirmière pour 13 lits. Bon, c'est complètement aberrant. Donc on est obligé d'adapter le soin à la gestion, au lieu d'avoir une gestion qui s'adapte aux soins. Alors autre chose est de dire, mais il ne faut pas qu'il y ait de gaspillage, il ne faut pas qu'il y ait de doublons, il ne faut pas qu'il y ait des examens inutiles, il ne faut pas qu'il y ait... Bon, oui, évidemment, et ça a été fait dans le Covid par les soignants, de comprendre que c'est le juste soin, et puis au moindre coût, parce qu'il faudra pouvoir que tout le monde puisse être soigné. Hein, mais la gestion, elle sait pas ce qu'elle regarde. Elle regarde si c'est rentable, si on peut faire de l'imagerie, de l'IRM, parce que ça va être rentable, ça rentre dans des cases de rentabilité, ben on y va. Hein. Donc ça marche sur la tête. L'hôpital n'est pas une entreprise commerciale. C'est le juste soin pour le patient, au moindre coût pour la collectivité. La gestion doit être au service des soignants. Une des revendications, c'est que les infirmières doivent être correctement payées, les aides-soignantes également, et bien sûr, pour avoir des équipes stables. Et la stabilité des équipes, c'est un critère majeur de qualité. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un nombre suffisant, qu'on ait le temps de former. À la piste de on avait annulé les formations, parce qu'il n'y avait pas assez de personnel, donc on annule les formations. Et comment on peut défendre la qualité? Et après, on fait des contrôles qualité à un portrait de l'entreprise.
Parce qu'il faut bien comprendre que derrière toute cette organisation, toutes ces histoires de structure, le patient, le citoyen, chacun d'entre nous en subit les conséquences quand on doit attendre, quand on reste seul dans son lit, quand on n'est plus soigné, on en a le sentiment des fois correctement, lorsqu'on n'a plus le temps simplement pour parler de ce qui nous arrive. On retrouve tout de suite en ligne le docteur Gérard Bapp. Bonjour docteur.
Oui bonjour, je suis désolé de prendre la conversation là à l'instant, on ne m'avait pas appelé avant. Je suis tout à fait d'accord avec le professeur Grimaldi, ce qu'il vient de dire concernant la catastrophe qu'a été la loi HPST de Mme Bachelot qui a réduit l'hôpital à une entreprise. Et à cet égard d'ailleurs, j'ai été frappé par un chiffre que j'ai lu récemment selon lequel le poids de l'administration dans le système hospitalier serait 40% plus élevé en France qu'en Allemagne. Quand on voit les résultats et l'efficience, on se pose effectivement beaucoup de questions là-dessus.
Alors, vous avez longtemps été député sous l'étiquette socialiste, médecin spécialiste des questions de santé. Vous citiez Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la Santé. En tout cas, ce problème, c'est un système. Ça fait longtemps que cette gestion de l'hôpital a été engagée. D'ailleurs, quand François Hollande a été au pouvoir socialiste, il n'a pas remis en question, c'est ce mode de gestion. Aujourd'hui, récemment, le 25 mars, à l'hôpital de Mulhouse, Emmanuel Macron a promis pour l'après-crise un plan massif d'investissement, de revalorisation des carrières pour l'hôpital. Docteur Gérard Bapp, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on sait de ce qui se dessine pour demain?
Pas grand-chose, si ce n'est que le président de la République a dit que rien ne serait désormais comme avant. Bon.
En tout cas, il y a des signes qui font croire que les choses seraient tentées de rester comme avant, comme lorsque le directeur général d'une ARS, l'une de ces agences de santé foyer de l'épidémie dans le Grand Est, avait estimé qu'une restructuration en cours ne serait pas remise en question. C'était en plein pic épidémique. Il a annoncé que cette réforme, la suppression de lits hospitaliers, serait maintenue. Conséquence, tollé, sanction, limogeage. Docteur Gérard Bapp, pour vous, cette décision qui a été médiatisée, qui a porté sur un homme, c'était histoire de calmer les esprits ou c'est quelque chose qui s'engage vraiment à un niveau national qu'on ne va plus justement gérer comme avant?
Écoutez, nous verrons bien, mais ce qu'avait déclaré le directeur de l'ARS en l'occurrence, c'est caricatural de ce qui est néanmoins la lourdeur et l'étroitesse conceptuelle que peut avoir la haute administration sur la gestion du système de santé. Et d'ailleurs, c'est la même chose qui se produit à l'heure actuelle concernant la réponse sanitaire à la pandémie de Covid. Il est clair qu'il y a un problème culturel profond et qu'à l'heure actuelle, c'est l'haute fonction d'ailleurs, qui a pris la main sur le système de santé. Ça fait des années même que des cris d'alarme s'élevaient dans les hôpitaux, mais c'est des années aussi que des cris d'alarme s'élèvent concernant la médecine libérale. Mm-hmm. Le problème d'accès aux soins, le fait que aujourd'hui des millions de Français ne peuvent pas s'inscrire sur la liste d'un nouveau médecin généraliste lorsque celui-ci, n'ayant pas trouvé de remplaçant, prend la retraite. Donc, ce qu'on appelait le meilleur santé, le meilleur système de santé au monde, est effectivement dans un piteux état. Il n'y a pas simplement des problèmes d'investissement, comme le disait M. Grimaldi à l'instant, dans l'hôpital, mais aussi dans la médecine de ville. Mais ce qu'il faut aussi, c'est un changement culturel profond. Et à cet égard, ça renvoie à ce que l'on appelle en France l'état profond, et qui existe non seulement dans les relations extérieures, qui a été dénoncé par le président de la République en diplomatie, mais aussi pour la gestion du système de santé et de sécurité.
Avec la question sur ces héros applaudis aux fenêtres tous les soirs, est-ce qu'ils seront ou les oubliés de demain? On vous retrouve, Delphine Soubest, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes infirmière à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Infirmière, on l'entend souvent, profession qui a la plus haute estime dans l'opinion publique. Et on peut dire que c'est haut dans l'opinion, mais c'est faible, très faible en termes de rémunération depuis longtemps, depuis toujours. On a envie de dire que c'est un sujet d'actualité. Comment est-ce que vous réagissez aujourd'hui, être sollicité à ce point? Et dans les faits, à la fin du mois, si peu récompensé.
C'est un peu dur effectivement ce que vous dites, puisque nous en ce moment, qu'on soit infirmière, aide-soignant, agent hôtelier, agent de ménage, on est tous dans le même bain, qu'on soit aussi le médecin. On travaille sans relâche jour et nuit, et en fait, on n'est pas revalorisé. C'est bien d'applaudir les gens. Mais la revalorisation des salaires, pour moi, est importante. Et c'est, comme vous avez dit, depuis toujours. Mais là, on pointe du doigt, c'est une importance et il faut agir.
On a un point de non-retour. Vous attendez quoi, Delphine Soubest, vous, aujourd'hui infirmière au sein de l'hôpital public? Qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qui doit changer dans la façon dont vous êtes traitée à tous les niveaux?
La vision de la population, de la santé publique, de l'hôpital, on a vu pendant la crise que les gens étaient et à la fois applaudissaient et à la fois il faut rappeler qu'il y a quand même des infirmières qui ont été poussées de chez elles parce qu'elles étaient infirmières, parce qu'elles pouvaient contaminer leurs voisins.
Dénoncées par des voisins avec des lettres anonymes comme dans les pires années de la France de Vichy, oui on a vu ça,
c'est
absolument épouvantable.
C'est épouvantable et pourtant elles ne font que leur travail, elles ne font que soigner, qu'aider les gens comme le font la plupart des gens, que ça soit infirmier libéral, que ça soit médecin libéral, au détriment de leur vie, au détriment de leur santé. Et en plus, là, ce qui moi me paraît le plus flagrant, c'est qu'en plus c'est des gestes de base qu'il faut réapprendre aux gens, que ça soit dans la vie courante. Mmh. C'est se laver les mains et se bien se laver les mains. Là, lundi, on va déconfiner dans certaines régions, et enfin plus dans certaines régions que notre région d'Île-de-France, mais il faut apprendre aux gens à bien se laver les mains, à bien porter un masque.
On parle de santé publique, on parle aussi d'éducation à la santé publique.
Oui, se laver les mains, c'est un geste simple et c'est le premier geste barrière contre les infections, contre les virus, contre les microbes. Sauf que ça n'a pas été fait et ça n'a pas été rappelé par l'État. Ça n'a pas été rappelé dans les informations qu'on donne alerte coronavirus. On n'explique pas comment il faut se laver les mains aux gens.
Et pour tout vous dire, alors que l'épidémie était toujours là, eh bien dans les écoles publiques, on ne trouvait pas de savon dans les sanitaires pour les enfants. Donc on peut leur dire de se laver les mains. Si on n'a pas les moyens de se laver les mains, ça ne sert à rien, le message ne va pas passer. Qu'est-ce que cette crise vous a appris, Delphine Soubest?
En tant que personne, ça m'a appris, ça a fait prendre conscience des priorités dans la vie. Et les priorités, c'est la santé des gens, c'est prendre soin de soi. Et c'est faire les règles simples, les règles, se laver les mains et les gestes barrières de la distanciation avec les personnes. Donc moi, la vie, ça a pas... Le masque n'a rien changé. Me laver les mains, c'était déjà rentré dans ma vie, dans mon éducation. Après, ce qui rentre dans ma vie, c'est la tristesse de savoir que on va pas être revalorisé. C'est pas avec une prime, c'est pas avec une carotte qu'on accroche les gens. En plus, ce n'est pas à tout le personnel qui s'est battu sans relâche. Parce qu'il y a des gens qui ont été contaminés. J'ai des collègues qui ont travaillé pendant un mois, qui ont été contaminés et qui ne vont pas avoir cette prime-là. Mmh. Vous voyez, donc c'est assez malheureux.
Des aberrations du système. Ça. Alors, on va dire retour à un rythme d'activité plus normal, même si dans certaines zones, il y a encore une extrême tension. Donc, cette promesse de prime qui a été en partie décriée pour les personnels. Après la tempête, professeur Frédéric Adnet, on s'interroge forcément sur l'après. Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir des questions, des revendications qui vont s'exprimer? Où on est tellement fatigué que finalement, on continue de travailler sans pouvoir vraiment exprimer ses revendications.
Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes qui vont émerger pour le retour, on va dire, à une activité normale à l'hôpital. Des facteurs humains, des facteurs psychologiques, des facteurs organisationnels. Je pense qu'il y a une unanimité, et y compris chez certains directeurs d'hôpitaux, pour dire plus comme avant, on n'aura pas retrouvé l'hôpital comme avant. Ça, c'est une première chose. Mais avant de développer ce point, si on a le temps de le développer, il y a la problématique du retour à la normale. Et le retour à la normale, c'est pratiquement plus difficile que la montée en puissance face à une crise. Quand on monte en puissance face à une crise, on endosse, comme vous l'avez dit, des habits de super-héros, de super-managers. Et on se fait applaudir tous les jours à 20h. On est dans une situation très inconfortable, avec une épée de Damoclès, puisque on sauve des vies, mais en même temps on se met en danger, et on se met en danger avec une maladie qui peut nous tuer. Donc on est dans ce paradoxe extraordinaire qui est de porter du soin et en même temps de se mettre en danger vis-à-vis de la maladie qu'on est en train de soigner. Donc ça, si vous voulez, c'est extrêmement perturbant. Alors, on y est arrivé, on a évité la catastrophe, on a vécu sous adrénaline pendant 3 semaines.
Le problème, et là,
tous les psychologues vous le disent, c'est quand on va retirer nos habits de héros, c'est extrêmement difficile. Sortir d'une situation extraordinaire, c'est-à-dire en dehors de la normalité, pour rejoindre la normalité, c'est quelque chose qui est extrêmement perturbant au niveau de tous les personnels, que ce soit des soignants, des infirmières, des aides-soignantes, mais aussi des médecins, voire même des personnels de l'administration, des directeurs. C'est des choses qui ne sont pas faciles à gérer. Nous avons beaucoup de phénomènes de burn-out, d'épuisement professionnel qui se révèlent paradoxalement quand il y a moins d'activité. De conflits, et ça, nos psychologues, nos psychiatres sont sur le pied de guerre, parce qu'il va falloir gérer tous ces phénomènes-là. C'est très connu des psychologues et psychiatres, c'est un petit peu les mêmes syndromes des soldats qui reviennent du front ou qui reviennent d'un pays qui était en guerre et qui reviennent dans un pays qui est en paix. Il y a beaucoup de décompensations psychologiques. Donc ça, c'est le retour à la normale. On ne peut pas s'affranchir de cette problématique, qui est une problématique extrêmement importante.
Delphine Soubeste, je vous pose une dernière question. Est-ce que vous avez l'impression que revenir au même rythme qu'avant, c'est possible? Qu'est-ce que vous faisiez hier que demain, il vous serait impossible de faire à nouveau? Pour vous, est-ce que vous avez atteint un degré d'inacceptable?
Oui, en fait, ce qui...
Delphine Soubeste.
Oui, revenir en fait en arrière, c'est vrai qu'on ne peut pas revenir en arrière. On a vécu avec pendant 2 mois. On va devoir vivre avec les masques pendant je ne sais pas combien de mois encore. Ça fait partie intégrante de soi maintenant. Enfin, pour moi, parce que je le porte bien peut-être, je ne sais pas. Après, moi, je n'y fais plus attention. Ça va changer des choses sur la façon de, de soigner peut-être, et la façon de se distancier avec les gens. C'est vrai que j'aurais peut-être plus d'appréhension à prendre les transports, je vais peut-être plus prendre mon vélo, mais après, quand je soignais, j'ai été changée de service, pour moi, j'ai soigné de la même façon que d'habitude.
Merci beaucoup Delphine Soubesse d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes infirmière en endoscopie à l'hôpital européen Georges Pompidou. Restez avec nous, le débat se poursuit dans Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Une crise qui aura été aussi sur le plan de la communication, une période inédite pour les médecins. Jamais on n'a vu autant de médecins, de docteurs, de professeurs derrière des micros à la télé, à des horaires habituellement dédiés à toute autre chose. Et une partie de l'opinion a d'ailleurs brutalement pris conscience de l'importance de sa santé, de son système de santé. Certains n'allaient pas à l'hôpital, là on a vu que l'hôpital était vraiment présent. Ces dernières semaines, pour les soignants, des alarmes pourtant avaient été données. On a vu la situation d'extrême tension, on a été dans certaines zones à la limite, voire on a touché la surchauffe, puisqu'il a fallu faire partir des patients en réanimation vers d'autres pays. Alors justement, sur ces soignants qui avaient déjà sonné l'alarme, on peut écouter Michel Mestracci, elle est pharmacienne hospitalière à Salon de Provence et membre du collectif Interhôpitaux.
Cette pénurie de médicaments, elle ne date pas d'hier. Nous, les pharmaciens hospitaliers, nous le savons que depuis plusieurs années, nous avons de plus en plus de mal à être approvisionnés en médicaments. La NSM, en 2011, signalait 44 ruptures de stock. En 2018, on en était à 7 ou 800. Et en 2019, il sera à plus de 1000. On sait que c'est dû à des délocalisations, à des choix industriels et financiers. Tout ça, on en a conscience, tout ça, on l'a dit, mais ça n'a pas été entendu. Et je précise, les molécules sur lesquelles nous avions ces ruptures, ce n'étaient pas des molécules de confort. C'était des antibiotiques, c'était des médicaments d'anesthésie, c'était les fameux curares qui manquent si lourdement à l'heure actuelle, c'était des vaccins, c'était des médicaments de chimiothérapie. Toutes choses qui étaient annoncées, et là, la crise est venue nous prouver à quel point on était vraiment sur la corde raide. Donc à l'heure actuelle, au niveau du gouvernement, 5 médicaments, les achats vont être nationaux, mais il n'empêche que la situation, elle est la conséquence de certaines causes. Les causes n'ayant pas changé, la situation va perdurer.
Michel Mestracci, merci à Marie Casadebé. Des années que la pénurie est là, on entend les autorités sanitaires qui nous disent on ne pouvait pas prévoir compte tenu de la portée, de l'ampleur de cette vague coronavirus. Professeur Grimaldi, comment est-ce que vous réagissez justement quand on dit on ne pouvait pas prévoir, alors que vous, ça fait des années que vous dites attention, on est au bord de la rupture?
Ah oui, parce que, si vous voulez, on a traité la santé comme une entreprise commerciale, comme une autre, comme la production de voitures ou de téléphones portables. Donc des chaînes de valeur. Donc on a délocalisé la production des principes actifs des médicaments. 80% sont produits en Chine et en Inde. Mm-hmm. L'industrie pharmaceutique considère que les médicaments anciens tombés dans le domaine public ne sont pas assez rentables. Alors des anticancéreuses, qui a été dit, des antibiotiques, des vaccins, des corticoïdes indispensables, ça m'a dit. Il y a eu des ruptures de plus en plus fréquentes, mais c'était pareil pour les masques, et c'était pareil même pour l'hôpital. Hein, il fallait, le grand mot d'ordre était, il faut travailler à flux tendu. Faut que l'hôpital soit un hôpital de flux et pas un hôpital de stock, c'est ça que disaient les managers. Donc un lit vide, c'est un lit qui coûte et qui rapporte pas, donc on ferme des lits. Et on avait, avant cette pandémie, on avait les patients qui arrivaient aux urgences et qui devaient être restés hospitalisés plusieurs heures, voire plusieurs jours sur des brancards, faute de lits, faute de personnel.
On le voyait, on le savait, on peut pas dire
qu'on
ne savait
pas. Donc on est rentré dans une logique de rentabilité, la santé est une marchandise comme une autre. C'est faux. Alors le président de la République l'a dit. Il a dit, lors de son discours, il y a des biens qui doivent échapper aux lois du marché. Alors, il faut mettre ça en pratique.
Pourtant, j'ai envie de vous répondre, ces voix qui continuent à parler comptabilité, gestion finance, elles sont toujours là. Il y a une tribune signée par 2 directeurs d'hôpitaux qui appelle à la cohésion derrière le gouvernement et qui, je cite, dénonce les poncifs d'un autre âge, jugeant bien naïf de croire que le système de santé va échapper demain à la régulation financière. Est-ce que vous êtes sensibilisé, professeur Grimaldi? Est-ce que vous êtes, attention, je provoque, est-ce que vous êtes un naïf?
Pas du tout, parce qu'on avait quand même prévu ce qui allait se passer.
Ouais.
Parce que chacun, et vous savez, l'idéologie, c'est chacun accuse l'autre d'être idéologique et lui-même d'être pragmatique.
Mm-hmm.
La réalité, enfin, je suis plutôt d'accord avec le président de la République sur ça doit échapper aux lois du marché. C'est un bien commun. Si c'est un bien commun, on doit assurer la sécurité sanitaire, c'est des dispositifs médicaux. Madame Bachelot, elle avait compris qu'il fallait des masques. Sur ça, elle avait raison. Elle a eu tort sur l'hôpital entreprise, mais sur les masques, elle a eu raison. Alors, cette logique commerciale poussée jusqu'au bout, ben, si on va privatiser les hôpitaux, on va les mettre en concurrence les uns avec les autres, et on a une espèce de folie. Ça marche, à vrai dire, ça marche. Dans ce qui est la médecine standardisée, technique, hein, le canal carpien, la cataracte ambulatoire, la prothèse de hanche, mais c'est totalement inadapté aux urgences, on l'a vu, aux épidémies, mais même aux épidémies visibles, connues, comme la bronchiolite. Rappelez-vous à l'automne,
on a une rupture en région parisienne.
Les hôpitaux parisiens ont été débordés, alors que cette épidémie n'était pas plus grave que les autres années. On a transféré des dizaines de nourrissons en ambulance de réanimation à plus de 200 km de Paris. C'était l'alerte. Évidemment, une pandémie, aucun service peut, et de santé, aussi bien soit-il, peut dire je vais faire face. Mais nous, on était complètement affaiblis. On a manqué de curare, comme le disait la pharmacienne tout à l'heure. C'est-à-dire des médicaments qui sont dans le domaine public, de morphine. Bon, donc ça, c'était absolument inacceptable et c'était une conception que la médecine doit être gérée comme une entreprise commerciale, comme une autre.
Avec un impact sur tous les secteurs, hein, parce qu'on voit bien aujourd'hui l'ampleur du chantier, les salaires, les structures de décision, la gestion des médicaments. Oui. Gérard Bapt, moi j'ai une question. Est-ce que le débat aujourd'hui, il est politique, il est culturel, il est philosophique? On a bien compris que pour l'opinion publique, aujourd'hui, on a compris que la santé, ce n'était pas une petite valeur comme ça qui venait en plus du pouvoir d'achat ou de la sécurité. Non, c'est numéro un. Est-ce que c'est clivé entre une vision libérale et ce service public, cet État-providence qui est là pour nous protéger? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui comme choix politique et quels moyens on a pour financer tout cela?
Alors, moi, ce que je regrette, si vous voulez, c'est que le débat politique sur la santé, il n'a jamais lieu au moment où il faudrait qu'il ait lieu au maximum, puisque nous sommes dans un système présidentiel, c'est au moment des élections présidentielles. Moi, je me rappelle, aux deux dernières élections présidentielles, on a essayé, parti par parti, je ne parle pas uniquement pour mon camp, de construire des projets de santé en partant des besoins, des carences qui commençaient à apparaître, et notamment, bien entendu, avec le problème des urgences et de la non-réponse libérale à cette question. Jamais le problème de la santé n'a été un thème
mobilisateur, et d'ailleurs ni présidentiel, ni après, quand il y a eu les gilets jaunes, après quand on a ouvert les états généraux, au début, il n'a pas été mention de la santé, ça s'est rajouté après, mais au départ, on n'estime pas que la santé, c'est une priorité.
Oui, mais ça s'est bien rajouté, parce que les gens, ils étaient notamment générés dans des zones périurbaines ou rurales, où il y avait des difficultés d'accès aux soins. Et puis il y avait aussi des problèmes matériels, des problèmes financiers d'accès aux soins. Et donc, au moins qu'on tire cette conclusion que les problèmes de santé, ce sont des problèmes éminemment politiques, au plus noble sens du terme, et que ça doit être traité dans un débat général. Alors certes, il y a le problème entre la droite et la gauche, les services publics et la chasse aux coûts, la pensée libérale et la privatisation. C'est un problème qui va de nouveau ressurgir très certainement.
Mais c'est aussi un choix de société qu'on voit quand des budgets ont été retirés pour la prévention, les relais de prévention, quand on voit la médecine scolaire, la protection maternelle et infantile dans des territoires qui en ont particulièrement besoin. Je pense au vôtre, hein, professeur Adnet, la Seine-Saint-Denis. Il n'y a plus de santé scolaire aujourd'hui en Seine-Saint-Denis. Ce sont quand même des choix.
Il n'y a pas qu'en Seine-Saint-Denis qu'il n'y a plus de santé scolaire.
Oui, mais c'est justement, le gouvernement avait mis en avant la prévention, insisté sur la prévention. Professeur Grimaldi, on comprend qu'il y a le budget, mais il y a aussi cette philosophie, le retour sur investissement dans la santé, c'est énorme. Mais où engager le débat? Sous quelle forme? Là, on passe au concret. On pointe ce qui ne va pas, on pointe ce vers quoi il faut aller. Mais comment en débattre? Comment en discuter? Comment en décider?
Ça serait aussi développer ce qu'on pourrait appeler la démocratie sanitaire. C'est-à-dire que l'ensemble des citoyens s'emparent du sujet de la santé, hein, pour savoir... si on peut nous amener à dépenser plus, c'est un choix de société. Encore faut-il dépenser mieux, parce qu'il y a aussi en France des salaires, les salaires des infirmières où on est très 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 en bas du classement de l'OCDE, elles sont très mal payées, mais par contre en frais de gestion du système de santé, on est très au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Donc tout ça c'est à remettre à plat, hein. Il n'y a pas cette grande discussion. Alors effectivement en France il y a un problème, c'est que la démocratie c'est les présidentielles, et puis ensuite voilà, si vous avez voté pour le président, ben, vous aurez un budget contraint de l'hôpital que vous n'avez pas voté, mais on vous l'imposera, sans discussion. Donc c'est pas possible de fonctionner comme ça. Hein. L'idée des gens qui ont fondé la sécurité sociale, c'est que c'était un bien commun. Qui n'était pas ni privatisable ni étatisable. Or, en 2018, la majorité a voté que désormais, l'État pouvait puiser dans le budget de la sécurité sociale. En 2019, l'État a pris 2,5 milliards au budget de la sécurité sociale. Donc il faut revenir à la loi Veil de 1994 qui disait les recettes de la sécurité sociale doivent être sanctuarisées. Mm-mm. C'est ce que les Français, par leurs impôts, par leurs cotisations, décident pour un bien supérieur qu'est la santé.
Ensuite, quand on veut investir sur des routes, j'explique aux auditeurs, on va investir sur des routes ou sur la sécurité, on ne va pas chercher dans la santé qui, elle, a dû faire des économies et serrer la ceinture.
La santé a fait des économies, et l'hôpital public tout particulièrement, c'était 8 milliards d'économies en 10 ans. Hein, tous les gouvernements ont fait ça. Alors, ça suppose aussi de revenir, si on n'est pas dans une idée commerciale, de revenir sur la tarification d'activité qui consiste à dire les hôpitaux vendent des séjours comme une entreprise vend des séjours et cherche à avoir des clients. C'est pas du tout ça. Hein. D'où il y a aussi beaucoup d'actes inutiles. Il y a beaucoup de prescriptions inutiles, redondantes. Et sur ça, il n'y a pas vraiment de politique. Hein, puisqu'on est dans une logique commerciale, vous ne discutez pas si une voiture est remplie de gadgets ou votre iPhone, du moment que vous trouvez des clients, c'est bon. Mais ce n'est pas vrai pour la santé. La santé, c'est le juste soin pour le malade, au moindre coût pour la collectivité, ce qui a été fait pour le Covid. Il fallait soigner tout le monde. Hein. Donc on a fait ce qu'il fallait, pas plus, pas moins, ce qu'il fallait pour chacun. Donc c'est ça qui doit être le principe de la santé. Alors c'est un grand chantier. Alors je pense qu'il va s'inviter aux élections présidentielles, mais on ne peut pas se contenter d'un débat tous les 5 ans. À chaque année, il y a un vote du budget au Parlement. Il devrait être précédé d'un grand débat de santé publique sur qu'est-ce qu'on veut pour la santé, quels moyens on y met. Or, ce n'est pas le cas. Actuellement, le vrai ministre de la Santé aujourd'hui, c'est le ministre du Budget. Ce n'est pas le ministre de la Santé. Hein. Que ce soit Agnès Buzyn et peut-être son successeur, bah, pour le moment, ils exécuteront ce que dit le ministre du Budget. Donc ça, c'est pas possible. La santé, alors, c'est parce qu'on avait un bon système de santé qui n'a pas eu de débat, contrairement aux Américains ou contrairement même aux Anglais, en sens inverse. Hein. Boris Johnson promettait de mettre des milliards dans le système anglais parce qu'il est très contraint. Et le président américain, lui, voulait détruire l'Obamacare. Donc voilà, donc on aura
des systèmes différents. Mais on s'interroge justement, Gérard Bapt, on a regardé ce qui s'est fait ailleurs. Beaucoup ont cité l'exemple de l'Allemagne, d'ailleurs vous l'avez fait au début de cet échange. L'Allemagne qui consacre la même part que nous, hein, que la France, à sa santé, 11% des richesses. Est-ce qu'on doit s'inspirer de certains modèles ou est-ce qu'il faut développer quelque chose de différent ?
Bien sûr qu'on peut s'inspirer de certains modèles, tout en ayant une originalité sans doute historique en France. Mais je me rappelle avoir fait une mission parlementaire sur les problèmes d'accès aux soins dans les pays nordiques et avoir été très très étonné que lorsque des patients venaient chez le médecin, dans 2 cas sur 3, ils ne voyaient pas le médecin, ils voyaient l'infirmier ou l'infirmière clinicienne qui était là, qui prenait les constantes et ils repartaient sans avoir vu le médecin parce qu'ils n'avaient pas été jugés utiles que le généraliste présent voit ce patient. Voilà. On est en train petit à petit d'y venir, mais j'entendais parler l'infirmière tout à l'heure, il faut absolument avoir aussi des promotions en qualité concernant les infirmières cliniciennes, les infirmières qui peuvent avoir, dans bien des cas, un rôle qui est bien, bien supplémentaire et parfois substitutif à la présence du médecin proprement dit. Mais je voulais juste dire un mot par rapport à ce que disait M. Grimaldi sur les problèmes de démocratie sanitaire. Il y a aussi un problème d'éducation thérapeutique, d'éducation en santé publique en général. On découvre aujourd'hui qu'il n'y a plus de gastro-entérite parce qu'on dit aux gens, lavez-vous les mains pour combattre le Covid. Bon. Mmh. Et on pourra découvrir aussi que si on mettait un masque, il y aurait beaucoup moins d'impact des épidémies saisonnières de grippe que ce que ça a été le cas au cours des dernières années. Donc c'est des problèmes de santé publique et d'éducation qui doivent aussi être portés au premier rang. Et puis je vais un petit peu plus loin en parlant des débats concernant les problèmes de santé. Il y a les problèmes, la santé, vous savez, c'est pas la médecine. À partir du moment où on a interdit aux enfants de moins de 12 ans d'aller dans les mines, c'était déjà un acte de santé publique. C'est des problèmes de transport, c'est des problèmes d'alimentation. Problèmes d'alimentation, ça concerne aussi l'ensemble de la population, la qualité de l'alimentation, le combat à l'heure actuelle qu'on peut avoir sur les risques chimiques, les perturbateurs endocriniens, les pesticides.
C'est un choix de vie. C'est un choix de vie.
Ce sont des problèmes généraux. Mmh. La santé, ça concerne la société en général. Malheureusement, là-dessus, je voudrais dire que le poids des liens d'intérêt, des conflits d'intérêts, le poids de l'industrie, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans le domaine des transports, ben il faut aujourd'hui le réévaluer. Et ce poids que fait peser à l'heure actuelle les intérêts économiques et l'industrie, notamment à l'échelon européen et pas simplement national, il est bien clair que ça doit être réévalué à l'aura de ce que peut être une nouvelle acception concernant les problèmes de la santé en général.
Il nous reste quelques minutes. Professeur Frédéric Attenet, je voulais vous redonner la parole sur les mesures que vous attendez peut-être, vous, pour demain. Pour vous, l'urgentiste, c'est quoi ce qu'il doit se dessiner demain dans votre équipe? Vous parliez tout à l'heure de l'épuisement, du risque de burn-out, voire dans certains cas, une sorte de syndrome de choc post-traumatique pour certains soignants. Vous, demain, pour vous soulager, pour bien continuer à travailler, vous avez besoin de quoi?
Déjà, il faut absolument que dans tous les établissements hospitaliers, qu'il y ait des sortes de conférences qui réunissent les soignants, les médecins et les équipes de direction
pour faire un espace de parole.
Un bilan, voilà, pour faire un bilan et pour faire un espèce d'état des lieux de l'hôpital, de la gestion de la crise et d'en tirer des vraies conclusions pour induire des vrais changements dans l'hôpital de demain.
Il nous reste une minute.
Voilà, on peut plus continuer comme avant. On peut plus continuer dans une vision du management hospitalier qui est seulement gouvernée par les recettes et par les dépenses. Il faut absolument recentrer ce qu'on a fait pendant la crise, la gestion de l'hôpital, sur le bénéfice pour le patient, sur le soin pour le patient, et médicaliser absolument la gouvernance, sans que les médecins prennent complètement le pouvoir, mais remédicaliser la gouvernance à tous les étages de l'hôpital, redonner enfin aux services les fonctions qui sont les leurs, qui est la véritable unité fonctionnelle qui est opérationnelle dans la gestion des malades et peut-être arrêter avec ces superstructures qui ne servent absolument à rien que de faire une courroie de transmission entre des décisions qui ont été faites sans les médecins pour un management qui est quelquefois à l'inverse de ce qu'on aimerait nous soignant pour le patient. Donc je
Merci.
Crois qu'il faut...
Merci beaucoup, voilà. On vous remercie tous les trois. On aurait pu en débattre encore très longtemps. Merci d'avoir participé à ce débat. Quelle santé demain pour ne plus confier notre avenir et celui de nos proches à des structures où l'on discute finalement financement avant de parler prise en charge médicale et humaine. Merci professeur Frédéric Attenet, professeur André Grimaldi et à vous docteur Gérard Bab d'avoir participé à notre émission. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise cette émission. C'est tous à Maquiaufeuille la scène, Juliette Bro, Didier Bleu et Didier Chérouse. Nous reparlerons du déconfinement qui commence en France lundi. Où en est l'épidémie? Comment éviter cette fameuse deuxième vague de contamination? Comment ça se passe ailleurs? Et qu'en pensent les populations? À lundi, d'ici là, portez-vous bien.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou, qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance. 7 milliards.